Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
À la Bibliothèque nationale de France. On passe au chapitre suivant.
Cette 11e encyclique de Jean-Paul II figurera sans doute en bonne place dans la future Bibliothèque nationale de France. François Mitterrand l'a inaugurée il y a 2 heures. C'est le dernier des grands travaux de son double septennat. Dans cette bibliothèque, entre 11 et 12 millions de volumes seront disponibles dans les salles de lecture que le président de la République a parcourues pendant une demi-heure. Jacques Chirac, mais aussi Lionel Jospin, vous l'avez vu, étaient présents à cette cérémonie. La bibliothèque n'ouvrira que vers la fin 96.
Comme promis, nous voici désormais à la Bibliothèque nationale de France, deuxième étape de notre périple sur l'avenue de France.
Après la gare d'Austerlitz, où nous vous avions parlé lieu de vie et recouvrement des voies,
le podcast est d'ailleurs toujours disponible sur notre page radiocampusparis.org,
nous prenons un peu de hauteur architecturale et culturelle en nous intéressant au bâtiment de la BNF en lui-même, à son histoire et à son intégration dans son environnement urbain.
Comment ce haut lieu culturel se diversifie-t-il fonctionnellement ? Sa monumentalité n'est-elle qu'un atout ?
Et comment s'intègre-t-il dans le quartier ? Fait-il bande à part ou se marie-t-il harmonieusement avec ce qui l'entoure ?
Laissons d'abord un certain François Mitterrand nous dire quelques mots à propos des grands travaux pour commencer cette exploration.
Nous bâtirons une cité internationale de la musique. Nous allons mettre en pratique la Fondation européenne pour la culture, ce qui nécessitera aussi certaines constructions ainsi que la Maison pour l'Islam. Et j'ai engagé les premières conversations pour que place soit faite à la France pour une exposition universelle en 1989. Et au travers de cette exposition universelle, là aussi, eh bien, c'est le chantier ouvert à l'imagination, à l'ouvrage d'art, à l'artisanat, aux humbles et grands métiers, à tout ce qui permet à la France de se sentir plus jeune.
Mais c'est à l'occasion d'un autre entretien télévisé, celui du 14 juillet 1988, que François Mitterrand, fraîchement réélu, annonce, je cite, « la construction et l'aménagement de l'une ou de la plus grande et la plus moderne bibliothèque du monde ».
Mitterrand lance ainsi au début de son second septennat un ultime grand projet, après la réalisation entre autres du musée d'Orsay, du parc de la Villette, de la Grande Arche de la Défense.
Au-delà de la volonté de laisser un héritage remarquable, ce projet répond également à une nécessité de fournir un espace plus grand pour la Bibliothèque nationale de France, qui était à l'étroit dans ses anciens locaux rue Richelieu.
Le site finalement retenu pour la construction est situé en bordure de Seine, dans le 13e arrondissement de Paris.
Un an tout juste après cette annonce par Mitterrand, c'est le projet de l'architecte Dominique Perrault qui est choisi par le président lui-même au terme d'une procédure de sélection de projets par un jury international.
Le décret du 3 janvier 1994 crée la Bibliothèque nationale de France, qui est, je cite, « un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de la Culture ».
On assigne alors à la BNF 3 missions.
Collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde, et en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française.
Assurer l'accès du plus grand nombre aux collections.
Et enfin, préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.
Le 20 décembre 1996, la bibliothèque d'études du site François Mitterrand ouvre ses portes.
Ce site comprend un jardin de 1 hectare, une esplanade de 60 000 m2, 4 tours de 22 étages et de 80 mètres de haut, 54 000 m2 de salles de lecture, 57 000 m2 de magasins et enfin 400 km linéaires de rayonnage.
Le tout pour la modique somme de 8 petits milliards de francs.
Les tours sont situées aux 4 coins de l'esplanade et prennent la forme d'un livre ouvert.
Chaque tour a son petit nom. La tour des temps, la tour des lois, la tour des nombres et la tour des lettres.
On y trouve 7 étages de bureaux protégés par des volets de bois mobiles et 11 étages de magasins.
À la base de ces tours se trouve une vaste esplanade grande comme 6 terrains de football.
Contrairement à l'esplanade de la Défense, l'esplanade de la BNF est en bois. Mais attention, pas n'importe quel type de bois, Alexandre.
Elle est en effet couverte d'un bois d'ipé du Brésil, qui a la particularité d'être dur et imputrescible.
Sous cette esplanade, il y a deux niveaux. Le haut de jardin, niveau moins 1, et le rez-de-jardin, niveau moins 2.
La décoration intérieure comprend des surfaces de béton tapis de teinte rouge, terre d'Afrique.
L'ensemble du mobilier, les tables, les rayonnages, les chaises ergonomiques ou les lampes à fibre optique a été dessiné par l'architecte Dominique Perrault et est en bois exotique.
Au centre du site François Mitterrand se tient un jardin-forêt également conçu par Dominique Perrault.
Inaccessible au public, ce jardin veut rappeler un peu le cloître médiéval, propice à la méditation.
Entretenu par l'entreprise Idée Verde, il est promu comme un havre de paix pour les oiseaux et comme participant à la construction d'une trame verte urbaine.
La BNF se structure donc autour de trois niveaux. Des bureaux en hauteur, une esplanade en surface et des salles de lecture ainsi qu'un jardin en souterrain.
Notre langue française s'abîme comme un vieux livre de cuisine. Sur les quais et sous la pluie, au pied de l'Académie, bibliothèque Mazarine, le brouillard sur les vitrines, le chagrin et les autos.
La Bibliothèque nationale de France est la plus grande bibliothèque de France en termes d'architecture,
en termes de collections conservées en son sein,
et de visiteurs accueillis.
La BNF est ouverte à deux types de publics, ce qui est matérialisé par les deux niveaux de la bibliothèque.
La bibliothèque de recherche en rez-de-jardin est réservée aux chercheurs français et étrangers qui ont accès aux collections patrimoniales.
La bibliothèque en haut de jardin est publique. Elle est accessible à partir de 16 ans et on peut y consulter des collections de référence dans tous les domaines du savoir.
Deux publics différents pour deux usages de la BNF, ce qui se traduit par une variation saisonnière d'activité.
Alors que le haut de jardin connaît un calendrier proche de celui d'une bibliothèque universitaire, soit de septembre à juin avec une fréquentation faible pendant les vacances d'été,
le rez-de-jardin connaît lui souvent un pic de fréquentation précisément pendant les vacances d'été, seule période de l'année où les chercheurs peuvent se libérer pour venir consulter les ouvrages.
Et donc pour tous ces ouvrages, la Bibliothèque nationale de France a décidé de procéder à leur numérisation. Résultat, le document regardé est non seulement protégé, en cas de destruction accidentelle, maintenant il en existe une trace, mais en plus, il peut être mis à la disposition du grand public sur Internet.
Dès la création de la BNF, la concentration spatiale parisienne d'archives et de matériaux de recherche est compensée par leur numérisation et leur mise en ligne progressive.
Le site Internet Gallica de la BNF a été créé en 1997, soit un an après l'ouverture de la bibliothèque, et offre en libre accès plus d'un million de documents.
L'inauguration du MK2 Bibliothèque en 2003, avec 3500 places, renforce par ailleurs la position du site de la BNF comme haut lieu culturel de Paris.
La monumentalité du bâtiment traduit la prétention de la BNF d'être un haut lieu culturel parisien et français.
Comme pour le palais de justice à Clichy, que nous avons étudié l'année dernière, Dominique Perrault a créé un monument imposant, tant par sa hauteur que son emprise au sol.
Aux 6 terrains de football répondent les 80 mètres de hauteur de chaque tour, qui font de cette bibliothèque un monument remarquable de tout l'Est parisien.
Dominique Perrault a voulu conférer à cette bibliothèque une esthétique bien particulière, à la fois classique et minimaliste.
Les matériaux utilisés font la part belle au verre, à l'acier et au bois. Et l'architecture est basée sur les notions de symétrie, d'équilibre et de monumentalité.
Tous ces principes contribuent à la visibilité de la BNF et à sa portée symbolique, mais ont également nourri des controverses et des critiques.
En effet, cette identité architecturale semble primer sur la fonction de bibliothèque, et ce, dès la conception du projet.
Dans une mission d'information du Sénat en 2000, messieurs Narbar et Richer soutiennent ainsi que, je cite, « Avec le recul permis par le temps, il apparaît que ce projet approuvé par le président de la République accordait plus de place à l'esprit de la nouvelle bibliothèque qu'à ses exigences bibliothéco-économiques. »
Ils ajoutent, à titre d'exemple, que, je cite, « la composition du jury, qui comptait de nombreux architectes, ne comprenait aucun bibliothécaire ».
Il rappelle d'ailleurs que l'architecte Dominique Perrault lui-même ne s'en cachait pas lorsqu'il déclarait dans l'Express que, je cite, « ma priorité n'était pas de concevoir une bibliothèque, mais de résoudre un problème d'urbanisme ».
Au-delà de ces critiques, il s'agit de s'intéresser à la place et à l'intégration de la BNF dans ce quartier en pleine construction, qu'est la ZAC Paris-Rive-Gauche.
Est-ce que la bibliothèque s'intègre comme institution culturelle ou comme bâtiment imposant ?
Pour l'origine, c'est la volonté de François Mitterrand d'installer dans Paris, au bord de la Seine, une nouvelle bibliothèque nationale. Ici, nous étions au milieu de nulle part. Et c'est une des composantes qui a fait beaucoup débat, parce que la proposition que j'ai faite était une proposition prémonitoire. C'est-à-dire que l'idée, c'était de construire un vide au milieu d'un grand vide. Parce que ce vide, qui est aujourd'hui l'esplanade de la Bibliothèque nationale, est devenu le cœur d'un quartier de grande densité, mixité. Il y a des gens qui habitent, qui travaillent, il y a des universités.
Force est de constater que le bâtiment remplit de nos jours pleinement son rôle de bibliothèque.
C'est une bibliothèque à l'échelle parisienne, à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. En effet, on estime qu'un quart des chercheurs sont étrangers, principalement des Américains et des Italiens.
Sans oublier le rôle que le site François Mitterrand joue à l'échelle du quartier, se trouvant désormais au centre de ce qui est voulu comme un, je cite, « nouveau quartier latin ».
La BNF a pu voir se concentrer en effet autour d'elle, au début des années 2000, de grands établissements universitaires et culturels, parmi lesquels l'Université de Paris Diderot, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine et une annexe de l'École des hautes études en sciences sociales.
Au total, ce sont plus de 40 000 étudiants et 8 000 chercheurs qui gravitent autour de la BNF quotidiennement.
Cette volonté de mettre en place une nouvelle centralité culturelle et étudiante repose également sur un défi urbanistique d'inscription de cet ouvrage monumental dans son environnement urbain proche.
Cela passe d'abord par l'accès direct à la bibliothèque qui se fait par des escaliers.
Il faut en effet savoir que la BNF est surélevée par rapport au quai François Mauriac et aux rues Raymond Aron et Émile Durkheim.
Mais pour atténuer la rupture dans la trame urbaine créée par ce surélèvement, les escaliers sont construits en pente douce.
Ces escaliers fluidifient ainsi le passage de l'esplanade au quai.
De même, la passerelle Simone de Beauvoir, livrée en 2006 et conçue par l'architecte Dietmar Feistinger, reprend le même principe de l'effacement de la frontière créée par la différence de niveau entre la rue et l'esplanade.
En effet, tout en créant une connexion avec la rive droite et le quartier de Bercy, où sont situés notamment l'Accor Hotel Arena et le ministère de l'Économie et des Finances, la passerelle dessert par sa structure à la fois la berge haute du quai rive gauche et l'esplanade de la BNF.
L'aménagement récent de ces quais et de leur accessibilité contribue également à cette fluidité du passage entre ces trois niveaux. 1. L'esplanade de la BNF, 2. Le quai François Mauriac et 3. La rive de Seine.
Tous ces aménagements contribuent donc à une triple intégration de la BNF.
Avec les rues avoisinantes via des escaliers en pente douce,
au quartier de la ZAC Paris-Rive-Gauche dans son ensemble, comme institution culturelle centrale dans ce qui est conçu comme le quartier latin du XXIe siècle.
Et avec la rive droite et le quartier de Bercy via la passerelle Simone de Beauvoir.
La Bibliothèque nationale de France est donc un monument qui s'impose au sein de ce quartier du 13e arrondissement qui s'est construit autour d'elle.
Malgré sa monumentalité, la BNF réussit à s'intégrer au sein de la ZAC Paris-Rive-Gauche, à la fois en tant que bibliothèque et en tant qu'ouvrage architectural exceptionnel.
Le mois prochain, nous achèverons cette épopée en trois actes par une analyse du quartier qui prolonge l'esplanade de la BNF, c'est-à-dire le quartier des Grands Moulins.
Où il sera notamment l'occasion d'aborder les alléchantes problématiques de reconstruction et de réhabilitation.
Merci de nous avoir écoutés.
Et retrouvez-nous sur la page Radio Campus et sur tous les réseaux sociaux.
Rendez-vous dans un mois, même heure, même onde.
The room that we share, the air that we breathe, the